disait que refuser la guerre, comme la préparer, ça exigeait de la pensée.
Tout grand livre sur la guerre est malheureusement actuel dans tous les siècles, puisqu'il n'y a pas de siècle sans guerre. C'est l'homme qui a pensé le plus clairement à la fois la diversité des guerres, la complexité interne des guerres et la subordination des guerres à la politique.
Prénom ?
Karl.
Nom ?
Von Clausewitz.
Sa date de naissance ?
Juin 1780, à Bourg, une petite ville de Prusse, d'une famille de fonctionnaires qui, affirmant avoir été noble, est à la recherche d'une revanche sociale.
Sa formation ?
L'armée prussienne. Où il parvient à se glisser dans les rangs des officiers réservés à l'aristocratie.
Un mariage ?
En 1804, là aussi, au-dessus de son statut social, avec Marie von Brühl. Un couple exemplaire, mêlant sincérité des sentiments, complicité intellectuelle, et dont témoigne une belle correspondance en français.
Quelle est son expérience de la guerre ?
Toujours contre les Français, Mayence, 1793, la grande catastrophe prussienne de 1806, à l'issue de laquelle il se retrouve prisonnier sur parole. La campagne de Russie, 1812, il combat alors dans une légion prussienne aux côtés du tsar. Et enfin, les campagnes en France, 1814-1815, il est chef d'état-major d'un corps d'armée à Waterloo.
Ses œuvres principales ?
Alors, ses premiers textes datent de 1803, mais son chef-d'œuvre, De la guerre, est rédigé à partir du moment, 1818, où il devient directeur de l'école de guerre de Berlin. Il le rédige aux côtés de Marie, qui le publiera de manière posthume. Clausewitz préférait écrire pour l'avenir afin de rester libre dans ses jugements.
Et sa mort ?
Novembre 1831, du choléra, après avoir repris du service actif. Son succès viendra surtout après 1870. Raymond Aron disait qu'il était aussi important pour la science de la guerre que Copernic pour l'astronomie.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Est-il besoin de dire la présence de Clausewitz aujourd'hui ? Il n'y a pas de siècle sans guerre, c'est encore Raymond Aron qui disait cela. Aujourd'hui, elle se tient aux portes de l'Ukraine. Alors sera-t-elle le prolongement logique de la politique de Poutine ? Et si vraiment la guerre est le prolongement de la politique, quelles conséquences l'absence de politique pourrait-elle produire ? L'Union européenne divisée sera-t-elle la spectatrice de son impuissance ? Nous entendrons dans cette émission s'interroger l'anthropologue Catherine Haas.
Que la guerre continue la politique, ça n'avait aucune évidence et c'est, je pense, ce qui m'a attirée à la lecture de Clausewitz, qui après est elle-même très attirante, parce que vivante, grand esprit, polémique, puissance analytique rare, qui fait qu'on peut effectivement travailler plusieurs années sur Clausewitz sans s'ennuyer.
Nous entendrons aussi Hervé Drévillon, qui est un de nos meilleurs historiens du phénomène militaire. Clausewitz est né au moment 1780, où commence justement à se construire en Europe la science de la guerre. En 1779, l'année d'avant, on avait traduit le chinois Sun Tzu, le grand maître de la stratégie de l'Empire du Milieu. En France, le chevalier de Guibert illustrait cette science nouvelle. Et elle se rebâtit aujourd'hui par le biais des War Studies, venus cette fois du monde anglo-saxon. Donc, Hervé Drevillon.
C'est mieux inséré dans le domaine scientifique anglo-saxon. Les studies, c'est une approche pluridisciplinaire sur des phénomènes donc qui sont des combinaisons de plusieurs dimensions. En France, il y a eu pendant longtemps dans le domaine universitaire quand même une tendance de fermeture disciplinaire. Et donc maintenant, il y a quand même une volonté de dépasser ce cloisonnement des disciplines. Et donc maintenant, quand même, le phénomène des études sur la guerre commence à s'insérer dans le domaine universitaire.
Donc, ça intéresse beaucoup de jeunes étudiants ?
Alors, non seulement des étudiants, mais aussi maintenant des universitaires qui s'engagent beaucoup dans ce domaine.
Alors, il y avait deux pays où, au 18e, en Europe, les World Studies, enfin, la science de la guerre, avait pénétré. C'était la France et le Royaume de Prusse, de superficie encore modeste, mais dont l'armée, créée par le roi Sergent, puis par Frédéric II, son fils, avait fait la réputation. Et c'est là que le jeune Clausewitz a été formé. Il en évoque le souvenir dans son « De la guerre ».
Il est infiniment important que chaque soldat, quel que soit son rang et son niveau, ait déjà rencontré ces situations qui bouleversent et désorientent la première fois avant d'y être confronté à la guerre. Même s'il ne les a vécues qu'une seule fois, elles sont déjà à demi familières. Cela vaut pour l'effort physique. Il faut s'y exercer moins pour y habituer les corps que les esprits. À la guerre, le soldat néophyte n'a que trop tendance à prendre des efforts inhabituels pour les conséquences des fautes, des erreurs et des méprises de ses chefs, et à se sentir doublement opprimé. Tel ne sera point le cas s'il y est déjà préparé par les exercices en temps de paix.
Au pas ! Au trot ! Au galop ! Quittez la selle ! Section demi-tour. Marche. Section halte. En position.
Des maîtres d'une compétence exceptionnelle nous donnaient une formation complète dans toutes les branches de l'art militaire et de la science.
En garde.
La tactique et la stratégie faisaient partie de notre enseignement, au même titre que les mathématiques balistiques, le dessin technique, les travaux du génie, tout comme l'escrime et le tir.
Allons, chargé. Prêt. Le premier rang, dégainé. En jeu. Feu.
La Prusse a été présentée comme le royaume qui avait créé un régime militaire de grande efficacité. La capacité à mener des campagnes, c'est-à-dire... alors. Mener des campagnes, c'est introduire un régime de mobilité. Le régime de mobilité, c'est quand une armée s'engage donc dans un déplacement lointain, eh bien, ça l'oblige quand même après à remporter des batailles décisives. Parce que si une armée qui est loin de ses ressources logistiques est vaincue, eh bien, là, elle ne peut plus trouver les ressources alimentaires. Et voilà, moi, je dirais que fondamentalement, le système de Frédéric II, c'est la mobilité à l'échelle de la campagne et la mobilité à l'échelle de la bataille.
Mais à propos d'échelle, notons qu'à cette époque, on se tient dans des amplitudes encore modestes. Entre 1756 et 1763, la guerre de 7 ans, est peut-être la première guerre mondiale puisqu'elle concerne les empires coloniaux des pays d'Europe. Mais elle n'engage que des armées de 100, 150 000 hommes. Les proportions vont changer dans la dernière décennie du 18e.
Monsieur Lebrun, en 1792, la France révolutionnaire envahie par les monarchies alliées ne va-t-elle pas inventer un autre système qui va bouleverser la science de la guerre ?
Ben oui, le général républicain Lazare Hoche disait « Point de manœuvre, point d'art du patriotisme ». Quand la France est envahie, en 1792, l'Assemblée fait appel à des bataillons de volontaires. Le film de Jean Renoir, La Marseillaise.
Citoyens, nous ouvrons le premier registre d'enrôlement. Héros du Midi, sauveurs du Nord, vous pouvez répondre à l'appel de la patrie.
Thank you.
ça là-dedans?
Je sais pas, moi.
C'est le banquet en l'honneur des délégués de Montpellier. Il paraît que là-bas, les fédérés sont déjà prêts à partir.
Dommage qu'on ne parte pas avec eux.
Oh, dis, ferme pas la porte, qu'on entende un peu ce qu'ils disent. Dis, qui est-ce qui chante là-bas?
C'est Mireur de Montpellier. Hein?
Et il chante quoi?
Je sais pas.
Avance, avance, avance.
Alors adieu, Pommier.
Adieu, Javel.
Au suivant.
Jean-Joseph Pommier.
Tu as des certificats?
Oui, les voici.
Tu peux jurer sur l'honneur que tu n'as pas de dette et que ta famille a de quoi vivre durant ton absence?
Je le jure sur la nation. Oh, Arnaud, Arnaud, tu viens qui s'inscrit, qui hier. Et ça me fait plaisir de te voir.
J'étais sûr que tu nous reviendrais.
Alors signe, citoyen. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour signer?
En 1792, au moment de l'élaboration de la Marseillaise, qu'est-ce qui alimentait le sens de la Marseillaise? C'était comme justement les modalités d'engagement des citoyens s'appuyaient sur le volontariat. Il fallait donc convaincre les citoyens de s'engager. Et ça, c'était exactement le sens de la Marseillaise. Donc donner à l'engagement militaire une valeur, alors pas seulement militaire, mais une valeur politique et une valeur sociale. Donc l'engagement militaire était présenté comme un engagement civique. Et qu'est-ce qui contribuait à la définition du soldat comme un citoyen? Eh bien, c'est définir le soldat comme un époux, un père de famille et un enfant, bon, un enfant de la patrie. Et lorsqu'on s'adresse aux enfants de la patrie, on leur demande d'entendre dans les campagnes mugir des féroces soldats qui viennent égorger leurs fils et leurs compagnes. Et donc, ça définit désormais le soldat comme un citoyen et comme un citoyen qui s'insère aussi dans le domaine social défini par la dimension familiale. Alors qu'auparavant, sous l'Ancien Régime, le soldat était considéré comme un individu rejeté par sa famille et comme un individu qui s'engageait dans un domaine fermé sur lui-même, qui était le domaine militaire.
Bon, en France, on va passer du volontariat à la levée en masse, de la levée en masse plus ou moins forcée, à la conscription, 1798. En 1794, les armées ont atteint un étiage supérieur, 750 000 hommes. Et la stratégie de Carnot, l'organisateur de la victoire, est alors double. La défense sur le territoire avec ses forteresses, à la façon de Vauban, et l'offensive. On rassemble des forces pour les projeter soudain sur un lieu au-delà des frontières où elles pourront être supérieures en nombre à un moment décisif. Les spécialistes de l'art de la guerre diront « Oui, mais Hannibal ou bien les rois de France au moment des campagnes d'Italie ont déjà franchi les Alpes ». Mais avec les campagnes d'Italie, de Bonaparte, on passe à une vitesse supérieure. En 10 ans, les armées napoléoniennes vont parvenir au stade de la guerre totale, qui à la fois étend géographiquement les combats et les intensifie localement. En 1806, la Prusse, qui était si sûre d'elle-même, est battue à plate couture. Notre homme, le jeune officier Clausewitz, est pris dans la catastrophe. À un moment, il est prisonnier avec le prince Auguste, qu'on surnomme le prince Don Juan. Oui, c'est une prison nominale qu'ils connaissent tous deux. Et Clausewitz, eux-mêmes, parfois fréquenté les salons de Paris à cette occasion. Mais il s'en trouve profondément humilié. Raymond Aron, encore et toujours.
Pour sympathiser avec l'attitude de Clausewitz entre 1806 et 1815, un Français n'a qu'à se souvenir de ses propres expériences entre 1940 et 1945. Non que je veuille comparer Napoléon à Hitler. Le patriote allemand n'en résistait pas moins à la domination de la France sur l'Europe. Résistant, Clausewitz a refusé la paix d'abdication avec une éloquence qui émeut les hommes de ma génération. Cette paix qu'apporte la soumission, je la refuse à jamais. Si je ne puis vivre libre et respecté en citoyen, burger, d'un État libre et respecté, et jouir dans tes bras des fruits d'or de la paix, alors qu'elle fuit pour toujours de mon cœur. Après la catastrophe, prisonnier en France, il écrit à sa fiancée le 28 juin 1807. Il n'est rien que je ne craigne autant que la paix. Plus fort sera le désir de la conclure, et plus elle sera dangereuse. C'est le sommeil d'un homme qui est en danger de perdre la vie dans un froid qui le paralyse.
À sa fiancée Marie, il écrit en français, mais enfin, il est dans la détestation des Français. Et dès qu'il récupérera sa liberté de mouvement, il va travailler à la réforme de l'armée prussienne. Bah, discrètement d'abord, parce que l'empereur des Français domine toujours l'Europe. Après avoir contraint le roi de Prusse à une alliance subordonnée, Napoléon croit pouvoir réussir la même opération face au tsar Alexandre. Mais Alexandre ne s'y plie que provisoirement. Il guette le moment où il pourra s'opposer de nouveau à Napoléon. Et celui-ci le lui fournit en lançant en Russie sa grande armée, sa très grande armée, une armée des 20 nations, parce que les pays satellisés ont été obligés d'y verser des contingents. Ainsi, 30 000 Prussiens. Alors Clausewitz ne veut pas être de cette vassalisation. Il préfère démissionner de l'armée prussienne et rejoindre une légion qu'a constituée le tsar. Il lui paraît que la fidélité passe par le changement d'uniforme. Catherine Haas.
Il s'engage dans les légions prussiennes aux côtés du tsar. C'est pas exactement combattre pour le tsar. Et il est absolument cohérent avec une thèse qui est présente dans de la guerre, à savoir que si on ne peut plus sauver l'État, à ce moment-là, la seule chose qui peut éventuellement le restaurer ou le rétablir, c'est son armée. Et à ce moment-là, pour lui, se battre contre la Prusse, dès lors qu'elle est l'alliée de la France, c'est se battre pour la Prusse. C'est-à-dire que si on ne peut plus défendre l'État, si on ne peut plus défendre le territoire, la seule façon de pouvoir finalement le sauvegarder, c'est de se battre pour son armée qui, elle, peut être à même de restaurer l'État.
Napoléon dispose de 420 000 hommes qu'il fait pénétrer très avant en Russie au risque d'étirer ses lignes de ravitaillement qui ne sont aucunement protégées puisqu'il n'a remporté aucune victoire décisive. L'ennemi se dérobe. Observation de la guerre de Clausewitz.
Quand Bonaparte avançait sur Moscou en 1812, toute la question était de savoir si la prise de la ville et les événements qui y conduiraient contraindraient le tsar Alexandre à faire la paix, comme en 1807 après Friedland, comme l'empereur François d'Autriche en 1805 et 1809 après Austerlitz et Wagram. Car si Bonaparte ne trouvait pas la paix à Moscou, il ne lui restait d'autre choix que de rebrousser chemin. C'était alors une défaite stratégique.
C'est le feu, et pas le feu accidentel, le feu volontaire, l'incendie allumé par le gouverneur, que Napoléon va trouver à Moscou. Et il ne lui reste plus d'autre solution qu'une retraite mal préparée de surcroît. Témoignage d'un vieux grognard, le capitaine Coignet, et puis du maréchal Berthier, qui feront partie des 80 000 survivants, il faudrait dire miraculés.
Le 23 octobre, l'armée reçut l'ordre de quitter Moscou. Des batteries remontaient sur le Kremlin. La route était encombrée par les fourgons des pillards de l'armée. Leur colonne s'allongeait sur plus de 50 kilomètres.
Voilà donc, sire, tout ce qui nous reste de l'armée. Les 3e, 4e, 5e et 9e corps n'ont plus que leurs aigles escortés par les officiers survivants. J'ai l'honneur, sire, d'être le fidèle serviteur de votre majesté. Daté de Virbalen, le 30 novembre 1812, maréchal Berthier, prince de Neuchâtel et de Wagram.
Si on additionne les morts des deux côtés, bien on arrive en 6 mois à 1,5 million. De la terre russe ont jailli des partisans qui sont pour une bonne part les responsables de la victoire puisqu'ils harcelaient les troupes de la grande armée en déroute. La Russie ne cesse de célébrer la réussite contre Napoléon. Pour un anniversaire de cette campagne de Russie, Tchaïkovski a composé ceci. Après ce moment intensément vécu aux côtés des Russes, Clausewitz va pouvoir revenir dans l'armée prussienne qui, Napoléon vaincu, peut poursuivre sa réforme à ciel ouvert dorénavant. Et l'ennemi français étant devenu un fruit mûr prêt à tomber, les leçons vont être tirées de ses aventures. Hervé Drévillon.
Napoléon, lui, il s'est engagé dans un régime d'hypermobilité. C'est vraiment une capacité de pénétration très très lointaine, beaucoup plus lointaine qu'auparavant. Bon, symboliquement, le premier événement qui exprime cette capacité de mobilité, c'est en 1805, la bataille d'Austerlitz. Austerlitz, c'est à plus de 700 kilomètres de la frontière rhénane. Et là, à part dans les dimensions coloniales, mais jamais l'armée française n'avait eu une capacité de remporter des victoires aussi lointaines. C'est l'amplitude qui caractérise les guerres napoléoniennes. Parce que, un exemple, la bataille de Leipzig, qui est menée en 1813. Et alors, c'est une bataille qui dure plusieurs jours. Hein. C'est vraiment une bataille qui a une dimension exceptionnelle. Son taux de perte était de 15% à peu près. C'est pas un taux de perte immense, mais comme il y a eu à peu près 500 000 hommes engagés dans cette bataille, et donc 15% de 60 000 hommes, ça fait 75 000 victimes. Et donc là, la bataille de Leipzig, c'est celle qui a provoqué le plus de morts. Qu'est-ce qui fait que les guerres napoléoniennes, effectivement, ont provoqué quand même beaucoup de pertes? C'est pas tellement leur intensité, mais c'est le fait que c'est des guerres qui ont été menées du Portugal et de l'Espagne jusqu'à la Russie.
Du Portugal et de l'Espagne jusqu'à la Russie. Le point commun de ces trois pays, c'est que pendant les guerres napoléoniennes, l'insurrection a surgit, désorientant l'ennemi et provoquant ces réflexions de Clausewitz, toujours dans De la guerre.
La guerre populaire telle que nous la concevons, pareille à une nuée, à un brouillard, ne doit jamais se matérialiser en un corps compact, de peur que l'ennemi ne s'attaque à ce noyau dur, ne le détruise et ne capture de grands nombres d'insurgés. Dans ce cas, le courage s'effondre, chacun se prend à croire que tout est fini, que tout nouvel effort sera vain. Le peuple relâche les armes. Par contre, il est nécessaire que cette nuée s'épaississe en certains points et se matérialise en groupes plus denses pour constituer une orageuse menace d'où peut jaillir un puissant éclair. Ces points sont en particulier situés aux extrémités du théâtre de guerre de l'ennemi. Les insurgés doivent s'y regrouper en unités plus importantes et ordonnées, en intégrant des troupes régulières qui leur donneront quelque peu l'apparence de forces régulières capables de se lancer dans des entreprises plus ambitieuses. À partir de ces zones, la force de l'insurrection doit s'accroître à mesure qu'elle s'approche des arrières de l'ennemi, qui sont les plus vulnérables.
Une dimension qui est très importante, c'est la dimension insurrectionnelle. À partir du moment où une population s'engage dans la guerre, eh bien, ça projette sur la guerre une essence nouvelle. Toutes les modalités d'engagement de la population dans la guerre, elles vont toutes dans le même sens. Finalement, cette dimension-là, ça va dans le même sens que lorsque la population, elle est intégrée dans l'armée.
Oui, mais en Prusse, comment intégrer le peuple dans l'armée? Si les sujets deviennent soldats, ils risquent de vouloir devenir citoyens, comme en France. Une solution intermédiaire est trouvée, former une milice la plus vaste possible. Les conséquences politiques que son développement risque de provoquer sont renvoyées à plus tard. Le royaume ne cessera d'hésiter entre les deux modèles, monarchie absolue et monarchie constitutionnelle, Clausewitz penchant discrètement pour la deuxième option. Mais la revanche approche bientôt. Il ne s'agit plus de libérer seulement la Prusse, mais d'envahir la France. Hervé Drévillon.
Il a rédigé une histoire de la campagne de 1814. Ce qu'il montre dans cette histoire, c'est qu'il dit que la campagne de 1814, eh bien, c'est une campagne qui est déterminée, alimentée par des objectifs qui sont radicaux. Parce que veulent faire les ennemis de la France? Ils ne veulent pas seulement vaincre militairement la France, ils veulent aussi faire effondrer l'Empire napoléonien. Et à l'inverse, que fait Napoléon pour mener cette campagne? Il défend sa vie d'empereur. Il dit en gros que cette campagne, son enjeu, c'est faire une guerre de vie ou de mort. Donc il dit que les enjeux stratégiques de cette campagne ont un caractère absolu. Mais cette campagne, elle a été menée de façon très modérée. Par exemple, l'effectif engagé par la coalition en France, c'était à peu près 200 000 hommes. Donc c'est une armée vraiment très, très limitée. Et Napoléon, lui-même, il a mobilisé un peu plus de 100 000. Alors, Clausewitz dit, comment ça se fait que Napoléon, par exemple, qui menait une campagne de vie ou de mort, pourquoi il a mobilisé si peu de ressources humaines? Pourquoi Napoléon, par exemple, n'engage pas un régime insurrectionnel? C'est qu'il a peur que l'insurrection le rejette, parce qu'il y avait effectivement, en 1814, quand même, déjà une tendance du rejet de l'Empire napoléonien dans la société française, et puis aussi un rejet de la conscription, enfin bon. Et donc, qu'est-ce qui fait que Napoléon n'a pas fait une grande mobilisation? C'est la dimension politique.
La dimension politique commande à la guerre. En 1814, les les Alliés atteignent cet objectif, éliminer Napoléon, l'exiler à l'île d'Elbe. Mais voilà qu'ils doivent intervenir de nouveau en 1815, après son retour avec les 100 jours. Clausewitz va passer beaucoup de temps en France. Étranger d'ailleurs à l'esprit de vengeance, il ne faut pas longtemps laisser le pied posé sur la tête de l'ennemi.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, Clausewitz a toujours écrit en parallèle de son action de combattant. Revenu en Prusse, ne va-t-il pas davantage se consacrer à la réflexion ?
Clausewitz n'a que 38 ans quand il est nommé, la paix revenue, à la direction de l'école de guerre de Berlin. Bon, la tâche est assez légère, lui permet d'écrire plusieurs heures par jour. Et il le fait sagement, régulièrement, dans la chambre de sa femme, qu'on imagine vaquant à son ouvrage, répondant à ses questions. Ils sont là, tous les deux, très proches. Il lui décrit la guerre comme un commerce. Un commerce qui s'interrompt à certains moments, parce que il faut résoudre des conflits entre de grands intérêts, et on le fait par la voie du sang. Mais si le commerce est proche de la guerre, explique Clausewitz, encore plus proche est la politique. La politique qui est la matrice où grandit la guerre. La guerre est la politique d'État continuée par d'autres moyens. On livre bataille au lieu d'émettre des notes diplomatiques.
Une grande entreprise militaire ou son esquisse ne peuvent être laissées aux seuls critères militaires. Ce serait inacceptable et même dangereux. Quand le gouvernement ébauche les plans de guerre, c'est une absurdité complète de demander conseil aux militaires pour qu'ils apportent un point de vue purement militaire. Les théoriciens qui exigent que l'intégralité des moyens militaires soit remise aux généraux afin qu'ils puissent dresser des plans de guerre ou de campagne sur une base strictement militaire profèrent une absurdité pire encore. L'expérience nous le montre. Malgré la variété et la technicité de la guerre moderne, les traits fondamentaux de la guerre sont encore déterminés par les gouvernements, par des organismes donc qui, techniquement parlant, ne sont pas militaires, mais politiques. C'est bien ainsi qu'il doit en être.
Clausewitz travaille progressivement ce qui va devenir de la guerre. Il revient, il refond, il juge que sa pensée résistera autant que le moment n'est pas favorable pour publier. En fait, c'est surtout après 1870 que le succès vient aux idées de Clausewitz, du moins en France, où la défaite du Second Empire provoque une crise allemande de la pensée française. Pareillement en 1940. On se demande comment la Prusse vaincue de 1806 s'est relevée et s'il ne faut pas suivre cet exemple. Mais c'est la mise au point de la bombe atomique qui donne raison, vraiment, à Clausewitz. Le code de la bombe, c'est le politique qui le détient. Nous sommes ici en 1945, sur un bateau américain, après Hiroshima et Nagasaki.
Si on me demandait à moi s'il fallait bombarder le Japon, je répondrais oui. Absolument, monsieur. Plutôt deux fois qu'une, monsieur. Rick Hoover m'a donné mon poste. Une cible, une checklist et un bouton à pousser. Et j'ai juste à savoir le pousser. Lui, il me dit quand. Et c'est à vous de savoir pourquoi.
Il vaudrait mieux qu'on sache tous pourquoi, monsieur.
Ce qu'on apprend à l'école navale, c'est la métallurgie, les réacteurs nucléaires, enfin tout sauf la philosophie. La guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Von Clausewitz.
Je suis certain que ce qu'il voulait dire était en fait un peu plus...
compliqué.
Oui, le vrai but d'une guerre est de servir une fin politique, mais sa nature profonde est de s'auto-justifier. Je pense qu'à l'ère nucléaire, le seul ennemi ne sera jamais détruit. À mon humble avis, À l'ère nucléaire, le seul ennemi est la guerre elle-même.
Raymond Aron, qui redonne toute son actualité à Clausewitz en France, en fait le maître de la dissuasion nucléaire.
D'abord, il faut partir de l'idée que toute guerre est un caméléon, ce qui signifie qu'elle change avec les belligérants, et qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a trois facteurs fondamentaux, dont l'un est le peuple, l'autre l'armée, et le troisième la politique.
Clausewitz et Raymond Aron, quand ils envisagent le peuple, l'armée et la politique par rapport au nucléaire.
Eh bien alors, là, c'est pour moi le fait nouveau majeur du XXe siècle. Je dirais, de manière simplifiée, que ce sont les premières armes décisives qui sont dissuasives. C'est-à-dire, ce sont les premières armes dont la puissance de destruction est formidable et qui, jusqu'à présent, ne sont utilisées que pour dissuader. Ce qui a pour résultat que les batailles jusqu'à présent se livrent au niveau subnucléaire. D'un autre côté, les armes nucléaires, pour la première fois, montrent la pensée profonde de Clausewitz, c'est-à-dire que tout acte militaire est un acte politique, avec pour résultat que la subordination du chef de guerre au chef d'État devient une évidence éclatante, je dirais en plaisantant, que même les militaires reconnaissent.
Dans la plupart des cas, c'est le même. C'est le chef d'État qui appuie sur le bouton, quasiment.
Bien entendu, mais je veux dire qu'il n'est même pas concevable que ce soit un autre que le chef d'État. Alors ne l'oubliez pas, Moltke l'Ancien disait « C'est le chef d'État qui déclare la guerre, mais une fois la guerre déclarée, le général fait tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire. Et puis lorsque la victoire est remportée, revient le diplomate et le chef d'État. » Or, cette dualité, le début et la fin appartiennent au chef d'État, mais tout le reste appartient aux militaires, ce qui a été la doctrine officielle de tous les états-majors en Europe, c'est devenu aujourd'hui une absurdité. Et de ce fait, ce que voulait dire Clausewitz, c'est-à-dire que pendant la guerre elle-même, c'est le chef d'État qui conduit les armées, devient une vérité reconnue par tous.
Monsieur Lebrun, quel éclairage peut encore apporter Clausewitz aux guerres d'aujourd'hui ?
Ben oui, la guerre est un caméléon. Et l'histoire des guerres, c'est comme les autres, une histoire du changement. Conscient de leur diversité, de la singularité de chacune d'entre elles, Clausewitz a tenté d'identifier des éléments qui témoignent d'une permanence en même temps que leur combinaison change selon les circonstances. Alors, rappelons l'armée, la politique, le peuple. Et passons au très contemporain, les années 1990 maintenant. Catherine Haas observe comment ces trois catégories ont joué dans la première guerre d'Irak, quand, en 1991, une coalition occidentale a répliqué à la prise de possession du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein.
9h15 ce matin, heure française, tous ceux qui peuvent capter Radio Bagdad sont devant leur poste. Saddam Hussein ordonne, la retraite est claire. Vous avez remporté une victoire morale, dit-il à ses troupes, mais des circonstances spéciales nous obligent à nous retirer. 21 divisions, soit près de la moitié des forces irakiennes au Koweït, auraient été mises hors de combat, déclare l'état-major américain. Et plus de 30 000 prisonniers se seraient rendus. Mais au milieu de cette confusion, les V de la victoire se multiplient sur la route de Koweït City. Les carcasses de blindés jalonnent les bas-côtés, mais dès ce matin, malgré les combats pour la prise de l'aéroport, les Koweïtiens annoncent la libération de leur capitale.
En 1991, quelque chose de l'ordre international de la guerre dessine les bornes de l'intérieur desquelles la guerre se fait. l'ennemi est identifié au pays ennemi. L'Irak envahit le Koweït. Une fois que l'Irak retire les troupes du Koweït, la guerre se termine, c'est-à-dire il y a une victoire, il y a une paix. Le calendrier onusien est respecté. Après, quoi qu'on pense de cette guerre, c'est tout à fait encore autre chose. Mais en tous les cas, les États-Unis interviennent de l'intérieur d'un cadre interétatique encore un peu réglé de la guerre et de la paix. Et donc, à moins, à cette époque-là, de conduire une guerre ouvertement prédatrice, de conquête, offensive, on ne va pas jusqu'à Bagdad.
Oui, modération des objectifs politiques. Le président Bush, c'est le président Bush senior, a choisi de ne pas faire tomber le régime. Clausewitz, je répugne à rester le pied sur la nuque de l'adversaire. Autre combinaison, toujours les mêmes trois éléments, en 2001 cette fois, quand Bush junior, le nouveau président des États-Unis, à l'issue d'une autre intervention, va renverser le régime irakien dont il fera juger les chefs.
Mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Tel un trophée, Saddam Hussein, hirsute et fatigué, est exhibé au monde entier. Il a été débusqué dans une ferme à 15 km de son fief de Tikrit. L'ex-président irakien se tairait comme un animal au fond de ce trou exigu.
L'ennemi, dans le fond, il est mon ennemi, non parce qu'il mène une politique ennemie, mais parce que je le nomme comme tel. Et surtout, ça se fait de l'intérieur de la politique intérieure, au sens où il n'y a pas cette idée qu'on va conquérir. En tous les cas, ce n'est pas énoncé qu'on va conquérir ou occuper un État, mais on va juste changer son régime, son gouvernement. L'État comme État n'est plus reconnu comme tel. Et donc, Bush a des déclarations, enfin l'administration Bush, et Bush lui-même, junior, disant qu'ils sont aux côtés de la nation et du peuple irakien, qu'ils agissent dans leur intérêt et désolidarisent tout à fait le dirigeant, comme si c'était un espèce de ministre qu'ils pouvaient déloger. Et à ce moment-là, on a une internationalisation de la politique intérieure par le biais de ces guerres qui ne sont en même temps jamais nommées comme telles.
L'internationalisation de la politique intérieure des États-Unis, est-ce que les États-Unis n'excèdent pas le cadre des théories de Clausewitz? C'est contre le terrorisme qu'ils entendent exercer leur responsabilité morale, par exemple face à Saddam Hussein, mais pas seulement. Les États-Unis ont une responsabilité qu'ils étendent jusqu'au vaste monde. Alors Roosevelt a obtenu notre reconnaissance pendant la Deuxième Guerre quand il a déclaré agir dans le monde atlantique comme dans le Pacifique au nom de la civilisation. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase de la secrétaire d'État Madeleine Albright qui parle plus tard de son pays comme de la nation indispensable?
Il y a la guerre parce que l'un des partis qui veut la guerre la nomme comme telle. De la même façon qu'il la décide le début, la fin de l'occupation est elle-même, elle est justifiée par rien, puisque s'il n'y a pas de terme, s'il n'y a pas de victoire, s'il n'y a pas d'objectif politique, donc c'est une pure décision. Et c'est ce qui s'est passé quand Obama décide alors de retirer les troupes. Pourquoi là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? On voit bien que rien dans l'espace de la guerre ne vient sanctionner empiriquement ou politiquement, et les deux, ce retrait. Il y a une opinion publique mécontente, les Américains en ont un peu assez des invasions extérieures, mais on voit bien qu'elle est entièrement référée à la décision américaine de retrait des troupes et non pas...
La décision est subjective.
Ce que j'appelle le subjectivisme, c'est au sens... où ils vont élaborer une conception de la guerre strictement à partir de leurs propres catégories, problématisations, termes. C'est ce que dit Bush en 2002, c'est pouvoir faire la guerre selon nos termes et d'être les seuls à en avoir une conception, une élaboration, et les seuls au sens où, quelques années encore auparavant, il y avait une altérité politique, étatique à la conception américaine de la guerre.
Mais venons-en maintenant à l'immédiat, aux Russes qui menacent l'Ukraine, la Russie carnivore et l'Europe végétarienne qui regarde un peu stupéfaite. Est-ce que la Russie, c'est toujours Catherine Haas qui parle, entrerait mieux dans les cadres de Clausewitz?
La Russie entend sécuriser complètement, sanctuariser, mais dans la continuité de la guerre froide, son propre empire, disons, post-soviétique. Et là, ce qui est en train de se passer à la frontière avec l'Ukraine, les 100 000 soldats massés, c'est encore le même motif, c'est-à-dire ils demandent, la Russie demande à l'OTAN de ne jamais inclure l'Ukraine dans les frontières de l'OTAN. Alors déjà, c'est une question qui n'est absolument pas d'actualité, c'est-à-dire que l'OTAN n'a pas une intention immédiate d'inclure l'Ukraine dans l'espace de l'OTAN. C'est un espèce d'ultimatum irrecevable parce que jamais l'OTAN n'acceptera de se laisser dicter ce qu'elle entend faire. La différence précisément des États-Unis qui, justement, n'ont pas une conception étatico-territoriale du national, à l'inverse, la Russie, elle, aujourd'hui, tient à blinder, voire un peu étendre ses propres frontières territoriales. Alors il n'y a pas que ça, puisque il y a évidemment la présence en Syrie. Je sais pas, je crois que c'est quelque chose comme 70 000 soldats russes qui ont été sur la durée déployés en Syrie. C'est les mercenaires Wagner en Centrafrique, au Mali tout récemment. Donc les modalités d'intervention et de présence de la Russie sur la scène internationale sont aussi de la cybercriminalité. C'est vrai que la Russie, sans aller quelque part jusqu'au seuil déclaré d'une guerre ouverte, en même temps mobilise tous les outils différents ou possibles, à la fois de nuisance, d'influence.
Et juste une question sur les outils du vocabulaire pour finir. Si Poutine envahit vraiment l'Ukraine, c'est pas sûr qu'il dise « c'est la guerre », il est capable de dire « je cherche la paix ». Si la Russie ne pousse son avantage que très modérément, peut-être les États-Unis et l'Union européenne seront tentés de dire « oui, c'est pas vraiment une guerre ». C'est-à-dire qu'on sait plus très bien aujourd'hui où est la guerre, parce que d'un autre côté, il nous est expliqué que la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre au-delà des frontières, voire que la lutte contre la pandémie, c'est une guerre avec un premier front et un deuxième front. La grande question aujourd'hui autour de Clausewitz et de son « de la guerre », c'est aussi de savoir si le mot n'est pas « entré en crise » puisqu'on est tenté de l'utiliser à chaque crise. Merci à Hervé Drébillon, sa dernière publication « Penser et écrire la guerre contre Clausewitz », un inventaire de toutes les réserves contre Clausewitz, c'est aux éditions Passé Composé. Merci à Catherine Haas, « Aujourd'hui la guerre » chez Fayard. À la technique Yann Fressy et à la maison de la radio et de la musique Rémi Chistiaga, les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard, réalisation conjointe aujourd'hui Étienne Bertin et Audrey Ripouille.